France Info.
Voilà, il est 20h à présent. L'image de la présidence de la République du Palais de l'Élysée apparaît. Nous écoutons l'allocution du chef de l'État, Emmanuel Macron.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément atteint dans leur esprit, dans leur cœur, les Parisiens, les Français et le monde entier. Cette nuit, nous sommes entrés dans cette cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire. Le feu venait d'être vaincu, à peine. Les pompiers avaient arrêté l'incendie en prenant les risques les plus extrêmes. Et ils étaient là, autour de nous, avec leur chef, explorant les toitures dévastées. Ils avaient 20 ou 25 ans et venaient de tous les endroits de France, de tous les milieux. Mais ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre. Au cours de notre histoire, nous avons bâti des villes, des ports, des églises. Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes. À chaque fois, nous les avons reconstruites. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais, et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter. Que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel, est vivant, et pour cette raison même est fragile, et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais, de manière directe, m'adresser à vous. Parce que c'est notre devoir aujourd'hui, et c'est celui qu'il nous faut avoir en tête. Rien de moins. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Souvenons-nous plutôt de ces dernières heures. Hier soir, cette nuit, ce matin, chacun a donné ce qu'il avait. Des pompiers ont combattu au péril de leur vie avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là, comme à chaque fois. Les Parisiens se sont réconfortés. Les Français ont tremblé, émus. Les étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé. Les photographes ont montré au monde ces images terribles. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais, en quelque sorte, l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses, et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain, passionnément français. Françaises, Français, et vous tous, étrangers qui aimez la France et qui aimez Paris, je veux vous dire ce soir que je partage votre douleur, mais je partage aussi votre espérance. Nous avons maintenant à faire. Nous agirons. Et nous réussirons. Vive la République et vive la France.
Voilà donc l'allocution du président de la République Emmanuel Macron. 6 minutes de discours assis derrière son bureau à l'Élysée. Présentation très sobre. Hein, 3 volumes de la Pléiade négligemment posés sur le côté. Marion Moore, première réaction avec vous. Il n'a pas seulement parlé finalement de l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Non, il commence dessus, il finit dessus, mais il y a aussi cette idée du projet national dans lequel il veut que la France se réinstalle. Pas mal de références à l'histoire, et puis cette volonté d'inscrire son discours dans le « nous », d'engager les Français dans l'idée de reconstruction de Notre-Dame, mais au-delà de l'idée de reconstruction de la France, en évoquant les mesures qui vont venir. Mais dit-il, ce n'est pas encore le moment, et donc ce sera plus tard, on comprend, dans les prochains jours. Donc il y a vraiment l'idée de cette France qui ne va pas mourir avec la catastrophe d'hier, qui se redresse, qui s'est toujours redressé, qui continue de bâtir et qui fait nation.
Ouais, Bruno Cotterêts, vous qui êtes régulièrement invité ici, nous avons avec vous évoqué la crise des Gilets jaunes pendant de longs mois. Qu'est-ce que nous dit le récit présidentiel ce soir ?
Emmanuel Macron vient de reprendre des thèmes qui sont fondamentaux chez lui et qui sont très macroniens jusqu'au vocabulaire. On a retrouvé des éléments de langage très importants, la notion d'héroïsme, la notion de dévouement, la notion de faire France ensemble, et puis aussi la réflexion sur le temps qui est très importante chez Emmanuel Macron dans tous ses écrits, très souvent dans ses discours. Ne nous laissons pas piéger par la hâte, la fausse impatience.
Mais le temps avec trois étapes, épreuve, réflexion, action.
Macron, en abordant cette question de la temporalité et du temps, n'a pas fait autre chose que de nous parler des mesures qu'il va annoncer en même temps. On peut lui faire tout à fait crédit, évidemment, qu'il est également dans l'émotion, dans la compassion de l'événement dramatique que nous avons vécu hier soir à Paris. Je retiens une phrase qui m'a particulièrement marqué dans le propos présidentiel. Faisons de cette catastrophe un moment pour réfléchir à comment nous sommes tous ensemble, qui me rappelle quand même un peu le discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il disait transformer les problèmes ou les frustrations, les tensions en solutions, la colère en solution. On voit qu'on est dans un répertoire sur le fond, sur la forme, qui ramène Emmanuel Macron à son cœur de métier. C'est vraiment du Emmanuel Macron pur sucre que nous venons de voir.
Alors, on va justement jauger cette prestation avec vous, Camille Saint-Paul. Alors, il y a une indication, c'est une indication. 5 ans pour rebâtir Notre-Dame de Paris, si le compte est bon. Cela nous donne une cathédrale toute neuve pour les Jeux Olympiques de Paris. Bon, ça c'est l'objectif. Que diriez-vous de la prestation du président ce soir ?
Pour moi, il a totalement filé la métaphore du début à la fin. Je me demandais comment il allait conjuguer les deux thèmes. Là, il les a mixés, et de manière assez grandiose, j'avoue. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, on retrouve du grand Emmanuel Macron. La seule question que je poserais, et c'est pas un reproche, c'est que je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir filé du coup la métaphore jusqu'au bout et avoir fait une vraie intervention sur...
Oui, de quoi, avec les annonces, les mesures.
C'est un moment, il a absolument raison sur son positionnement, c'est-à-dire qu'il est sur le sujet de l'unité et c'était le moment où jamais, effectivement, pour reparler d'unité nationale, pour justement parler de consensus, à un moment où justement il a quand même accepté, apparemment il aurait accepté un certain nombre de mesures qui font consensus et pour autant qui déjà suscitent débat. Donc pour moi c'était le moment ou jamais de reprendre de la hauteur et de reprendre effectivement ses discours de campagne et effectivement... à ce moment-là, faire plus de pédagogie sur les mesures.
Alors, avant le rappel de l'info, Pascal Tournier, le fin de ce premier tour de table avec vous, vous jugez cette intervention nécessaire ce soir ?
Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, je partage exactement le même point de vue, c'est qu'on retrouve tous ces discours. Ça fait penser, ça fait écho, moi, je trouve, à celui au discours, par exemple, qu'il avait prononcé en l'honneur du colonel Beltrame. On retrouve la notion d'engagement, d'héroïsme. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'était il y a un an, et la cérémonie, d'ailleurs, en son honneur, ça avait lieu à Notre-Dame de Paris, par ailleurs. Donc, on retrouve la notion d'engagement, d'héroïsme. Il y a les expressions « retrouver le fil », ça, c'est une expression qu'il utilise très souvent.
Avec un style très littéraire.
Oui. Donc, moi, je trouve qu'on retrouve vraiment toute la dimension de ces discours mémoriels tels qu'il les affectionne et dans lequel, effectivement, il est à son aise et dans lequel aussi, on lui reconnaît une certaine valeur. Donc, c'est un exercice dans lequel il se complaît.
Allez, 20h, il se complaît. On va en parler dans un instant. 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Emmanuel Macron veut rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris dans les 5 ans qui viennent. Une cathédrale plus belle encore, espère-t-il, d'ici 2024. C'est un projet humain et passionnément français, selon le chef de l'État qui décrit ses concitoyens comme un peuple de bâtisseurs. Pas d'autre annonce dans ce discours de 6 minutes. La cathédrale ce soir est en cours de consolidation. Ses travaux vont durer 48 heures. Après seulement, il y aura une évaluation plus fine des dégâts. Ce que l'on sait à cette heure, c'est que les principaux trésors historiques et artistiques ont pu être sauvés, que la façade et la structure du monument tiennent bon. En revanche, il n'y a plus de charpente et les 2/3 de la toiture comme la flèche sont partis en fumée. Cette catastrophe à Notre-Dame, ce sera l'unique sujet du Conseil des ministres demain, c'est ce qu'annonce l'Élysée. Et sur le grand débat, Emmanuel Macron, qui devait faire des annonces hier, ce soir, s'exprimera dans les prochains jours. Mais France Info a eu connaissance des mesures envisagées et en voilà les principales. La suppression de l'ENA, une baisse de l'impôt sur le revenu, à retenir aussi un moratoire pour arrêter les fermetures d'écoles et d'hôpitaux d'ici la fin du quinquennat et la mise en place d'une démocratie plus directe grâce à 2 outils, le référendum d'initiative partagée qui serait facilité et la création de son cousin, le fameux RIC, demandé par les Gilets jaunes. Gros bémol toutefois, celui-ci ne serait utilisable qu'à l'échelon local. Et puis dans le reste de l'actualité, ce soir il y a du football, la Ligue des Champions. On connaîtra ce soir les 2 premiers demi-finalistes. On joue les quarts de finale à 21h, Barcelone contre Manchester United et la Juventus Turin contre l'Ajax Amsterdam.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Marion Mourgue, Jules Dekis rappelait à l'instant les mesures qui ont été, si je puis dire, qui ont fuité dans les médias, que ce soit à France Info ou chez vous au Figaro. Est-ce qu'au fond, Emmanuel Macron n'est-il pas en train de jouer un petit peu la montre et faire durer un petit peu le plaisir alors que finalement toutes les mesures sont sur la table?
Alors je tiens juste à faire une précision parce que certains se sont interrogés sur les réseaux sociaux, ont eu l'impression que l'Élysée nous avait donné l'intervention du président. Les médias se sont procurés l'intervention du président, ce qui est différent.
Oui, contre l'Élysée.
Oui, l'Élysée aurait préféré que ça ne fuite pas. Est-ce qu'il cherche à gagner du temps ? La séquence est de toute façon modifiée depuis l'incendie de Notre-Dame. Donc, il fallait à la fois s'exprimer parce que les gens attendaient, après l'émotion d'hier, et puis dans le contexte où il y a des fuites, les gens attendaient que l'Élysée réagisse. Mais c'est en effet compliqué de réagir uniquement sur les mesures pour répondre à la crise des Gilets jaunes après ce qui s'est passé hier soir. Donc c'est pas sûr qu'il essaye de gagner du temps, c'était plutôt une volonté de reprendre un peu la main dans un débat qui lui échappe nécessairement.
Camille Saint-Paul, il y a effectivement l'effet, on va dire la tragédie de l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais on va y revenir dans un instant, mais il y a aussi la politique qui se poursuit, ses droits, l'effet de blast, l'effet waouh, vous savez, cette annonce qui devait survenir hier soir. Que dites-vous,
pardon,
Pascal Tournier?
Non, pardon, je faisais un très mauvais jeu de mots. Mais enfin, l'effet de blast, c'est l'incendie, d'une certaine manière, qui a créé cet effet, qui nous a tous sidérés. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, la réalité et l'actualité qui écrase tout. Et puis c'est toujours compliqué quand on vend à l'avance des annonces, on peut risquer aussi d'entraîner une certaine déception, puisqu'on nous avait dit rien ne sera plus pareil dans le quinquennat après les annonces. Voilà, vous créez une attente qui peut être de fait.
Oui, Camille Saint-Paul. Et en même temps, enfin, vu ce qui est sorti et ce que vous avez fait sortir, je comprends qu'il ait voulu maîtriser son temps. Encore une fois, certes, il y a eu des annonces sur l'effet waouh, et tout autant, il y a eu une attente qui était énorme. Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le thème? Mais quand est-ce qu'il va sortir après ce grand débat? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il faut absolument que ça change, etc., etc. Donc, je trouve que, somme toute, Oui, il a voulu maîtriser les choses, et c'était pas idiot d'ailleurs. Hein. Son plan média, je le trouvais pas totalement idiot. Hein. Premier temps, je fais une intervention classique. Deuxième temps, je ferme la course avec une voiture balayée par une conférence. C'était absolument bien maîtrisé. Le pauvre, il y a eu un incendie par-dessus, et non maîtrisé. Là, ce que je comprends pas, c'est cette précipitation. Là, pour le coup,
Vous dites ce soir qu'il va trop vite, qu'il se précipite, il n'a pas besoin de faire cette allocution ce soir.
Je pense qu'elle n'était pas nécessaire, et qu'on aurait attendu 24 heures de plus, on pouvait avoir quelque chose de...
Mais manifestement, c'est aussi en réaction, c'est-à-dire que les fuites ont commencé à se multiplier dans la presse, et vous avez désormais tout le discours qui est dans la presse. Donc c'était compliqué aussi de ne pas
justifier. Il se justifie. D'ailleurs, dans la deuxième partie de ce qu'il a, son discours tout à l'heure à la télévision, il se justifie justement par rapport au gilet jaune, montrant qu'il y a une différence de temporalité. Enfin, il donne quelques arguments pour essayer de temporiser et reprendre effectivement, comme vous dites,
Bruno Cottret, sur cet aspect des choses, sur cette accélération de au fond du temps avec l'incendie, la tragédie de Notre-Dame de Paris, et puis ces fuites qui ont au fond alimenté aujourd'hui la chronique politique, parce qu'on sait à peu près tout de ce que voulait raconter le chef de l'État, même si l'Élysée s'en défend aujourd'hui. Qu'aurait dû faire, selon vous, le président de la République?
Je pense que par rapport à un événement aussi émotionnellement exceptionnel, ce que nous avons vécu hier soir, il n'avait pas tellement d'autres stratégies que celle qu'il a adoptée ce soir, c'est-à-dire de couvrir d'abord et avant tout l'émotion collective vécue par les Français et poser des jalons. On voit très bien que ce soir, il a très clairement posé des jalons pour reprendre la main en montrant aux Français, lors de l'annonce des mesures, toute la continuité entre son appel à l'unité nationale, entre son appel à s'inscrire dans un temps très long, à essayer de prendre du recul, de dire les transformations sont sur un temps très très long. Donc il va être dans cette continuité. Donc d'une certaine manière, je trouve que c'est pas trop trop mal vu ce qu'il a fait en termes de stratégie. Par contre, sur l'effet que ça va avoir, le fameux effet de blast est un des grands mythes de la politique française. C'est pas Emmanuel Macron qui est le premier. Rappelez-vous, quand Nicolas Sarkozy a sorti son livre Tout pour la France, lors de son retour, les Sarkozy disaient ça va être un effet de blast, et Nicolas Sarkozy n'a pas gagné la primaire finalement. Et de la même manière, les mesures qui sont annoncées vont avoir des effets, mais ce sont des effets de très longue durée. Par exemple, si on prend le cas de la suppression de l'École nationale d'administration, tant qu'on ne sait pas par quoi elle va être remplacée, et les effets en attente, c'est-à-dire la formation d'une nouvelle génération de fonctionnaires, peut-être plus dans la proximité, dans la compréhension des problèmes des Français, mais ce sont des effets à attendre sur 10 ou 15 ans. Ouais. Donc les Français ne vont pas voir demain matin ou après-demain matin les effets directs. Donc l'effet de blast...
Je résiste à l'argumentaire néanmoins, c'est-à-dire que je me dis... On est quand même effectivement dans un moment d'émotion et on est encore sous le coup de cette union nationale, cette fameuse, et ce moment où justement les gens se retrouvent. Je me dis demain, après-demain, quand il va réintervenir, il va revenir dans la politique française. Et les gens vont le percevoir comme ça et vont prendre les mesures les unes après les autres et en plus, ils seront prévenus. Et là, je me dis... C'est catastrophique. Là, on avait l'occasion, encore une fois, de reprendre de la hauteur, de passer effectivement ce qu'il a commencé à faire et de continuer à expliquer pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il faut être dans l'Union. Pourquoi plus que jamais il faut être bon sur l'Europe, et que l'Europe c'est un vrai sujet parce que c'est un creuset de valeurs, et ces valeurs on les voit là avec cet incendie.
On lui aurait reproché d'instrumentaliser.
Pascal
Tournier, attendez.
Ce qui est sûr, c'est que dans ces moments d'émotion très forte, d'émotion collective, la posture du président, enfin le positionnement du président est très très attendu, et c'est aussi ça relégitime, qu'on le veuille ou non. Alors certainement sur une courte durée, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est tout
pas
très longtemps, et j'ai le sentiment que plus ça va, moins cela dure longtemps, mais il ne pouvait pas faire l'économie de ce moment-là, et il était obligé de réendosser ses habits de garant de l'unité nationale. D'autant que, juste pour terminer, ce qui était assez compliqué comme exercice, c'est que ces mesures, quelles qu'elles soient, alors, même si aujourd'hui on est à peu près à la teneur, elles vont forcément un peu cliver. Donc il y a une espèce de contradiction entre ce moment nécessaire d'unité nationale, dont il est le garant, et aussi ces mesures qui, de fait, vont cliver et diviser.
Mais quand il dit « le moment n'est pas venu », c'est ce qu'il glisse dans son allocution, quand l'on sait que les partis politiques, les formations politiques ont mis pour 24 heures à l'arrêt leur campagne des européennes, il y aura samedi une 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que le président a été entendu sur le mode « marquons une pause » ?
En tout cas, je pense que samedi, je ne sais pas si les Français apprécieraient beaucoup qu'il y ait beaucoup de violence. Je pense qu'il va y avoir, du côté de l'opinion publique, il va y avoir un...
Ce n'est que les Gilets jaunes appellent à un acte très fort de mobilisation.
Donc oui, mais je pense que là, il y aura un décalage. Enfin, on verra, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il y aura un décalage. Parce qu'il y a véritablement, au sein de la population française, et que ce soit catholique ou non catholique, il y a un vrai retentissement, une vraie résonance très très profonde de ce qui s'est passé hier. On l'a vu et on le voit encore, je pense, à travers tous les médias, ce qu'on peut voir dans les témoignages.
20h20 sur France Info, nous poursuivons le débrief de cette allocution du président Emmanuel Macron. Mais tout de suite pour l'heure, le rappel de l'info sur France Info avec vous, Jules De Kiss.
Une cathédrale plus belle encore. C'est le souhait d'Emmanuel Macron qui veut reconstruire très vite Notre-Dame de Paris. Il souhaite que cela soit fait dans les 5 années à venir. Annonce ce soir lors d'une très courte allocution depuis l'Élysée. Le chef de l'État a également salué les pompiers présents sur les lieux de l'incendie hier. On a appris aujourd'hui que c'est grâce à eux que la cathédrale a pu tenir debout la façade, notamment les 2 tours, que cela s'est joué à 1/4 d'heure, 1/2 heure. Voilà donc pour la prise de parole du chef de l'État ce soir. Pour l'enquête actuelle, il n'y a qu'une seule piste qui est envisagée et c'est la piste accidentelle. La cinquantaine d'enquêteurs mobilisés doit maintenant déterminer d'où ce feu est parti. Les 12 personnes qui réalisaient des travaux dans les combles ont été entendues dans l'après-midi. Les promesses de dons affluent également ce soir. Les gros industriels français, des banques, des assureurs promettent à eux seuls autour de 700 millions d'euros pour financer les travaux qui s'annoncent. Des dons qui, comme ceux des particuliers, sont largement déductibles des impôts pour doper ces contributions. De nombreuses cagnottes sont en ligne actuellement ce soir pour les recueillir. Cette catastrophe à Notre-Dame, ce sera l'unique sujet du Conseil des ministres demain. C'est ce qu'annonce l'Élysée sur le grand débat national. Emmanuel Macron devra faire des annonces dans les prochains jour. France Info a eu connaissance des mesures qui étaient envisagées pour les annonces d'hier. En réponse à ce grand débat, le chef de l'État comptait notamment supprimer l'ENA, l'École nationale d'administration, et faire baisser l'impôt sur le revenu.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Bruno Cotterêts, faut-il y voir une métaphore, hein ? Le président dit il faut devenir meilleur que nous le sommes. Il se donne 5 années pour reconstruire Notre-Dame de Paris. C'est un quinquennat.
Oui, bien sûr. Le discours d'Emmanuel Macron ce soir était particulièrement riche en métaphores politiques, en métaphores, en messages codés que le président de la République a envoyés. Je pense notamment à tout le passage aussi où il dit à propos des dons des Français, chacun a donné ce qu'il avait, chacun a donné ce qu'il a pu, chacun a sa place. On retrouve là une philosophie aussi très très macronienne qui est, c'est pas tout le monde qui donne la même chose. Je ne doute pas qu'il sera amené à commenter la générosité des plus riches fortune de France, en y voyant là le symbole des premiers de cordée qui donne l'exemple. Donc c'est d'une incroyable richesse métaphorique ce que nous avons écouté ce soir. Et effectivement, il a envoyé de très, très, très multiples messages.
Allez, on va revenir un petit peu sur les événements tragiques survenus hier. L'incendie donc de Notre-Dame de Paris. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, rentré d'un déplacement à Mayotte, a tenu à se rendre sur les lieux de Notre-Dame cet après-midi pour faire un point sur la sécurité.
Les risques existent encore sur la structure, elle fait l'objet d'une surveillance en permanence parce qu'elle peut encore bouger. Il va nous falloir attendre 48 heures pour que nos services puissent intervenir, préserver l'ensemble des œuvres qui ont besoin d'être préservées. Nous n'allons pas les exposer, les mettre en sécurité, donc 48 heures de vigilance très attentive, mais vous doutez bien que le temps de l'observation et de la reconstruction prendra énormément de jours, de mois, et nous serons au chevet de la cathédrale.
Camille Saint-Paul, il est encore question là de temps qui dure, c'est-à-dire il faut de la patience, un appel finalement à une sorte de temporalité qui n'est pas celle des Français aujourd'hui.
Ou du temps, oui, qui ne va pas durer, effectivement. C'est-à-dire que je pense que là, on y est. Demain, ça va se calmer. Et après-demain, on passe à autre chose. Donc, très clairement, pour lui, le temps ne va pas durer. Plus j'avance dans ma réflexion, plus je me dis, il aurait plutôt toffé de profiter de ce temps irrationnel, plus que de retomber sur un temps totalement rationnel et à froid. Mais cela dit, c'est quand même intéressant ce moment où quand même, enfin, faut revenir, c'est un moment où justement les Français font preuve. Je reviens là-dessus parce que je pense que c'est très important. Font preuve d'une vraie union et font preuve surtout d'un attachement à un territoire. C'est bête, vous allez me dire, oui, il y a le village préféré des Français, Stéphane Bern, etc. Et bien sûr que c'est quelque chose de presque galvaudé. Simplement, on l'a vu, l'émotion qu'il peut y avoir, et pas que celle des Parisiens, celle des Français de manière générale. Je pense que c'est quelque chose de très très important, a fortiori quand on a un Trump de l'autre côté qui va tweeter des bêtises, et que l'on voit bien le fossé culturel que l'on a. Et à la veille des élections européennes, pour moi, c'est le moment ou jamais de rappeler qu'il y a un terreau de valeurs, il y a une histoire, une culture commune que l'on a tous, et en Europe, en France, en Europe aujourd'hui d'ailleurs, et tous les Européens sont derrière nous, même les Américains aussi, mais les Européens aussi, et que c'est le moment ou jamais de rappeler ça, à un moment où va se décider, par exemple, tous les sujets de data, d'intelligence économique et de tous ces sujets-là. Ouais. Et je pense qu'il serait très important de le rappeler.
Pascal Tournier.
Je reviens sur la question de l'intemporalité. Effectivement, il y a un décalage entre là, l'inscription dans un temps long, l'histoire, cette cathédrale qui 800 ans d'histoire, qui a survécu à deux conflits et qui l'a donc été incendié. Et de l'autre part, effectivement, ce climat général qui est dans l'instantanéité. On l'a dit souvent, les Français, on veut des réponses très vite, immédiates. Donc il y a vraiment cette ambivalence et je pense que ce temps est intéressant, c'est là où je vous rejoins, car effectivement, il renvoie les Français aussi à ce qui les unit. Et ce qui les unit, c'est une histoire, c'est un patrimoine culturel. Alors, pour certains, il peut y avoir évidemment des prolongements religieux, mais là, on ne nous sommes pas divisés comme on l'a pu l'être depuis le 17 novembre. Là, il y a un moment d'union nationale et je pense que c'est là où il y a une résonance qui est très forte.
Bruno Cotterêts, je cite l'un des informés de France Info, Emmanuel Bachelderie, qui nous écrit ce soir et qui nous dit « Faut-il un incident de cette ampleur pour recouvrer une concorde nationale ?»
C'est pas impossible. En tout cas, on a les deux aspects, les deux facettes de la politique. La politique, c'est de manière indissoluble à la fois le conflit et la recherche de consensus. Ces deux éléments de la politique semblent toujours se contredire et nous, on balance toujours un peu entre les deux. On voudrait que tout le monde s'entende, que la recherche du consensus domine. Mais la politique, c'est aussi des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs. Donc les deux sont liés. Au-delà du symbole religieux, on voit qu'on touche à quelque chose d'extrêmement important, qui est effectivement le besoin de sacré, de spiritualité. Les sociologues de la religion parlent parfois de la religion vicaire, ils appellent ça comme si on avait un besoin d'exercer la religion par procuration. On ne va pas à l'église soi-même, on ne pratique pas, parfois on se dit sans religion, et puis quand même on va rendre hommage ce matin, merci. Et certains sont en pleurs devant la cathédrale Notre-Dame, même s'ils ne pratiquent pas leur religion. Donc on voit quelque chose là qui est quelque chose de puissant et de très fort sur l'idée de faire société ensemble.
Pour rebondir rapidement, c'est quand même, Notre-Dame, c'est quand même un symbole très fort. C'est le lieu de la sacralité de l'État. C'est quand même, nous avons vécu toutes les heures malheureuses et heureuses de notre histoire se sont déroulées à Notre-Dame de Paris. Donc il y a vraiment, on est au cœur de l'âme française. C'est là où je pense que ça va très 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 loin, ça va très en profondeur.
Allez, suite de notre édition spéciale, les informés de France Info, après donc l'allocution du président Emmanuel Macron. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Nous reviendrons évidemment sur l'incendie de Notre-Dame de Paris et sur l'analyse qui peut être faite de ce discours du président et surtout des mesures qui ont fuité toute la journée. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Pollen, acariens, bactéries, virus, moisissures, poils d'animaux, formaldéhyde, tous ces polluants et allergènes sont retrouvés dans nos maisons. En fait, l'air intérieur peut être 5 fois plus pollué que l'air extérieur. La bonne nouvelle est que le purificateur Dyson PureCool capture plus de 99% des particules aussi fines que les virus chez vous pour que vous ne les respiriez plus. Dyson PureCool, changez d'air. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
La perturbation pluvieuse qui nous concerne depuis hier tardera à évacuer les Hauts-de-France et le Grand Est demain, maintenant un temps gris en début de journée. Quelques gouttes seront même possibles près des frontières demain matin, mais au fil des heures, les éclaircies vont revenir pour s'imposer. Le Nord-Pas-de-Calais gardera un ciel plus nuageux. Sur le reste du pays, la journée s'annonce calme et plutôt ensoleillée. Entre le Bas-Languedoc, le Roussillon et la région toulousaine et du Val-de-Seine au Val-de-Saône, des grisailles matinales retarderont les belles éclaircies. Sur les régions de l'ouest, c'est un voile nuageux qui atténuera un peu le soleil, notamment entre la Bretagne, la Normandie et le Poitou. Après un début de journée parfois frais, avec même quelques gelées encore possibles, les températures maximales seront en forte hausse, gagnant localement 6 à 8 degrés. Demain après-midi, il fera 17 degrés à Nancy, Montpellier, Rouen et Abbeville, 19 degrés pour Paris, Auxerre, Toulouse et Porto Vecchio, 21 degrés à Vannes et à Draguignan, 23 degrés à Grenoble, Clermont-Ferrand et La Rochelle, et jusqu'à 26 degrés dans le Pays Basque. À noter aussi le vent d'autant qui sera sensible et un peu de vent sur les régions de l'Ouest.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
(20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Cohen.
Bonsoir, nous rebâtirons la cathédrale de Notre-Dame plus belle encore d'ici 5 années. L'allocution d'Emmanuel Macron, 6 minutes montre en main. Pas d'annonce concernant le grand débat, mais une promesse et un calendrier. Et puis aussi un hommage rendu à ceux qui ont donné de leur personne, Emmanuel Macron.
Hier soir, cette nuit, ce matin, chacun a donné ce qu'il avait. Des pompiers ont combattu au péril de leur vie avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là, comme à chaque fois. Les Parisiens se sont réconfortés. Les Français ont tremblé, émus. Des étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé. Les photographes ont montré au monde ces images terribles. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons.
Et en ce qui concerne les annonces du grand débat, le président appelle à la patience. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte, a-t-il déclaré. Des annonces qui ont tout de même filtré. Le texte du discours a été révélé dans plusieurs médias. Aujourd'hui, certaines mesures sont symboliques, comme la suppression de l'ENA. Emmanuel Macron se dit également favorable au RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne, mais uniquement sur certains sujets locaux. Autre annonce, une baisse générale de l'impôt sur le revenu et les retraites de moins de 2000 euros seront réindexées sur l'inflation. Et ce soir, on l'apprend, le coq de la flèche qui s'est effondré a été retrouvé, indique le ministère de la Culture. On en saura davantage demain sur les opérations encore en cours au sein de la cathédrale. Le porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers, accompagné d'experts, donnera une conférence de presse à 15h sur le parvis. Les cloches des cathédrales de France sonneront demain à 18h50. Et la solidarité s'organise également pour financer les réparations. Un concert de soutien aura lieu samedi. Plus de 700 millions d'euros de dons ont été promis par des grandes fortunes françaises et autres industriels. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est la réclusion criminelle à perpétuité qui a été requise contre Abdelkader Merah en appel. L'accusation estime que le grand frère du tueur au scooter est complice des 7 assassinats. Une période de sûreté de 22 ans a également été demandée, des réquisitions identiques à celles de 2017. En 2012, Mohamed Merah a tué 3 militaires, 3 enfants et 1 enseignant juif à Toulouse et Montauban. Et puis elle est soupçonnée d'avoir poussé son fils de 6 en par la fenêtre, une femme placée en garde à vue cet après-midi à Vaux-en-Velin, près de Lyon. L'enfant est tombé du 8e étage. Il est actuellement en arrêt cardio-respiratoire. Le frère de la victime, lui, n'a pas été blessé.
(20h-21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie de notre édition spéciale Les Informés, consacrée à l'allocution du chef de l'État Emmanuel Macron, avec nos invités Marion Mourgue, grand reporter au Figaro, avec Pascale Tournier, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire La Vie, avec Camille Saint-Paul, présidente fondatrice de 5e rue, cabinet de conseil en stratégie numérique. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, et Bruno Cotres, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique, et vous enseignez, vous également, à Sciences Po. Allez, nous poursuivons donc ce débrief de l'allocution du président Emmanuel Macron. Nous réécoutons un extrait de son intervention ce soir.
Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain. passionnément français. Françaises, Français, et vous tous, étrangers qui aimez la France et qui aimez Paris, je veux vous dire ce soir que je partage votre douleur, mais je partage aussi votre espérance.
Bruno Cotterêts, il y a du style dans le récit présidentiel, mais est-ce audible pour les Français qui regardaient cette allocution ce soir à 20h?
On est partagé quand on écoute Emmanuel Macron entre le fait qu'il a une incroyable capacité à utiliser les mots, les situations pour passer plein de messages et le fait qu'on se dit mais tout ça ne parle qu'à un cercle très restreint de Français. C'est assez abstrait quand même le contenu du discours. On retrouve néanmoins chez Emmanuel Macron la volonté de vouloir toujours poser des dichotomies. La politique s'est beaucoup expliquée et simplifiée la réalité avec des dichotomies et on en retrouve beaucoup ce soir. Il y a ceux qui relèvent les défis, qui sont des bâtisseurs, qui sont des reconstructeurs.
Je me rappelle, nous sommes un peuple de bâtisseurs.
Mais oui, je me rappelle d'un discours de campagne d'Emmanuel Macron faisant référence à la génération d'après 45 et lui-même se situant en comparaison avec De Gaulle, disait « nous sommes un peuple de reconstructeurs ». Donc on voit toujours chez Emmanuel Macron les mêmes thématiques qui reviennent, un peu comme les progressistes, les conservateurs. Mais c'est vrai que tout ça est assez abstrait. Est-ce que les Gilets jaunes attendent et les Français qui les ont soutenus, c'est surtout... quand est-ce que je gagne ma vie, en gros? Donc c'est vrai que c'est ça la difficulté à laquelle il va devoir répondre.
Alors il y a ces mesures que l'Élysée, au fond, ne veut pas commenter aujourd'hui et dont le président, évidemment, n'a pas parlé ce soir. Vous évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs, Bruno Cotterêts, la suppression de l'ENA. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la baisse de l'impôt sur le revenu. Je crois que Marion Mourgue, vous pourriez m'aider à faire un petit peu la liste, puisque vous l'avez dressée vous aussi au Figaro.
Il revient notamment sur la décentralisation avec la volonté qu'il n'y ait plus de fermeture des écoles et des hôpitaux d'ici à la fin du quinquennat. Oui. Une volonté de donner plus de pouvoir pour la démocratie directe avec le référendum d'initiative partagée, mais aussi le référendum d'initiative locale uniquement, le référendum d'initiative citoyenne, pardon, uniquement pour les sujets locaux.
Local, oui. Le RIC local, mais le RIP.
Il y a le RIP et il y a le RIC. Il y aurait les deux dans les annonces que voulait faire Emmanuel Macron. Il y a aussi une diminution du nombre de parlementaires, l'introduction de plus de proportionnels. Ça, c'est pour le volet institutionnel. Et puis, il répond à cette question de justice fiscale avec la baisse des impôts pour les classes moyennes, la réindexation des petites retraites, celles qui sont à 2000 euros. Voilà pour les grosses annonces.
Pour l'école, il y avait aussi, il me semble, une mesure assez intéressante sur l'école. C'était de faire en sorte que pour tous les CP et CE1, tout confondu, qu'on soit à un niveau de 24 élèves par classe. Donc on est dans la poursuite de ce qui avait déjà été mis en place pour le CP. Mais là, c'était pour tous les CP et les CE1.
Alors je rappelle que nous commentons des mesures non officielles et non confirmées par l'Élysée. Marion Mourgue, pour poursuivre sur votre lancée, vous diriez qu'il y a un effet waouh dans cette liste que vous avez dressée?
Ça dépend ce que les gens en retiendront. Il y a un catalogue de mesures, il y a des choses qui répondent directement à l'air du temps. Je pense à la suppression de l'ENA, mais ça peut être vu aussi comme très populiste, cette mesure, puisqu'il y a tout un passage sur la sélection des élites en disant « nous avons besoin des élites, mais nous avons besoin que les jeunes de l'ensemble du territoire et de l'ensemble des classes sociales soient représentés ». Et donc il en vient à la conclusion qu'il faut supprimer l'ENA et, dit-il, d'autres structures, sans les citer. Mais c'est oublier aussi que les Français ne sont pas anti-ENA, ne sont pas anti-élites. Ils sont aujourd'hui très critiques sur la technostructure, mais ils valorisent la méritocratie et c'est censé être l'ENA qui aussi permet la méritocratie. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont parfois un peu populistes pour aller dans l'air du temps.
Populiste, vous dites. Camille Saint-Paul, l'ENA à bon dos.
L'ENA à bon dos, ça c'est sûr, c'est évident. C'est effectivement une mesure qui divise l'opinion. On a à peu près 39%, si je me souviens bien, de soutien à cette mesure. Le reste étant, effectivement, on a des hausses plutôt côté France Insoumise et Rassemblement National qui sont pour effectivement la suppression de l'ENA. Donc on retrouve ce cadeau notamment pour les Gilets jaunes. Donc c'est clair que c'est une mesure qui, sur le fond, pourrait être populiste. Ce qui est sûr, c'est surtout le vocabulaire. Alors, tel qu'il a été retranscrit, et encore une fois, on prend toutes les précautions oratoires, mais tout ce vocabulaire autour de la méritocratie, moi, m'a profondément choqué. C'est-à-dire que...
Marion Morgue,
c'est trop facile. Non, c'est pas sur la méritocratie, j'ai oublié aussi, il y a cette mesure symbolique sur l'ISF avec une évaluation qui serait annoncée dès 2020. Or, c'était une des revendications symboliques des Gilets jaunes.
Bonne Cotresse, est-ce que vous diriez vous aussi qu'il y a un brin de populisme là derrière?
C'est sûr que quand on tape sur la production des élites, c'est toujours un peu dangereux. Alors il y a quand même un vrai sujet en France, et si Emmanuel Macron veut aller jusqu'au bout de cette idée, ça devrait concerner d'autres volets de la production des élites françaises. On pourrait réfléchir aussi aux classes préparatoires, on pourrait réfléchir à tout un tas de... Et là, on se met à déconstruire un petit peu tout. D'autre part, tant qu'on n'a pas dit par quoi on remplace l'ENA, et surtout... par quel mécanisme de sélection, c'est-à-dire si on change pas les jurys, si on change pas les références des jurys, si on change pas les modalités sur lesquelles les gens sont jugés.
Voilà, donc il est question de l'ENA et d'autres institutions également.
Il faut d'avoir le détail avant de se prononcer.
Allez, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Une allocution très courte, 6 minutes à peine, et une annonce du chef de l'État ce soir, la reconstruction de Notre-Dame de Paris dans les 5 ans. Emmanuel Macron espère voir une cathédrale plus belle encore. C'est un projet humain et passionnément français, selon lui, un projet pour un peuple de bâtisseurs. L'édifice ravagé par les flammes hier est en cours de consolidation. Sa structure tient bon, mais elle est affaiblie. La façade est sauvée, mais en revanche, il n'y a plus de charpente et la toiture a presque intégralement brûlé. La reconstruction va coûter très cher, mais l'argent afflue depuis 24 heures par centaines de millions d'euros. Des dons de particuliers en France et à travers le monde, et de gros industriels français également, des mécènes qui à eux seuls promettent déjà plus de 700 millions d'euros. Cette catastrophe sera l'unique sujet du Conseil des ministres demain. Sur le grand débat, Emmanuel Macron prévient qu'il s'exprimera dans les prochains jours. Il a dû annuler l'annonce des mesures hier, mais France Info a pu consulter ce contenu. Et voilà ce qu'on peut en retenir: la suppression de l'ENA, une baisse de l'impôt sur le revenu grâce à un coup de rabot dans les niches fiscales et l'indexation des retraites inférieures à 2000 euros sur l'inflation. Dans le reste de l'actualité, les réquisitions au procès d'Abdelkader Merah, le frère du tueur de Toulouse et Montauban. L'avocat général estime qu'il est complice des assassinats de 2012. En première instance, le frère de Mohamed Merah a été condamné à 20 ans de prison. Il avait en revanche été acquitté de ce chef de complicité.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je rappelle l'une des principales annonces de cette adresse aux Français du président Emmanuel Macron, reconstruire Notre-Dame de Paris d'ici à 5 années, ça correspond à peu près à la date des Jeux Olympiques, de façon à ce que la cathédrale soit plus belle encore, a dit le chef de l'État. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait ce matin en direct sur France Info. C'était en interview avec nous, je voudrais qu'on prépare l'extrait en question, qui contredirait presque... est-ce qu'on pourrait écouter l'extrait, s'il vous plaît? Merci, diffuse-les.
Je crois que maintenant, toute notre énergie doit être évidemment pour rebâtir cette cathédrale. Vous savez, ce qui nous fait à nous, notre génération, le plus de peine, c'est qu'on ne la verra jamais reconstruite, puisqu'il faudra 40 ou 50 ans pour le faire. J'espère en tout cas que ça fera prendre conscience aux Français de l'importance de leur patrimoine, et que c'est au moment où la maison brûle qu'on se rend compte à quel point nous l'aimions et nous y étions attachés.
Voilà donc extrait de Stéphane Bern, je tenais à le préciser, qui était en direct ce matin sur France Info. Qui dit vrai finalement? Est-ce qu'au fond il va falloir attendre si longtemps pour voir cette belle Notre-Dame de Paris reconstruite, ou est-ce que 5 années vont suffire? Nous ne sommes pas experts ici même en termes de bâtiments. Bruno Cotteret, c'est important de donner des objectifs de cette sorte.
Le chef de l'État est plutôt dans son rôle en donnant des objectifs. S'il disait aux Français ça arrivera un jour, on dirait c'est pas possible, il est aux manettes. Et donc je pense qu'il est plutôt dans son rôle. 5 ans, je suis pas un expert, mais je me doute qu'il va déjà y avoir un temps d'expertise, un temps d'inspection du bâtiment dans son ensemble, que tout ça va sans aucun doute prendre quand même un peu de temps.
Marion Morgue, Stéphane Bern semblait pessimiste ce matin. Hein.
5 ans, pour le coup, ça paraît très optimiste. On espère tous revoir Notre-Dame telle qu'on l'a vue avant-hier. Mais 5 ans, c'est très rapide. Et annoncer comme ça un calendrier aussi serré, c'est... entraîner une déception peut-être dans quelques années. Et là encore, les gens n'attendent pas des promesses qui ne seraient pas tenues. Ils attendent un volontarisme, qu'on annonce qu'on va tout faire pour reconstruire Notre-Dame. mais peut-être pas annoncer un calendrier qui ne sera pas suivi.
Alors il y a le calendrier, puis il y a aussi les dons, Camille Saint-Paul, et ce chiffre étonnant ce soir, 750 millions d'euros de dons privés venant de toutes parts. Hein. Il est question de Bernard Arnault et LVMH, de François Pinault, de Total, de Martin Bouygues et autres grandes fortunes et grandes entreprises françaises. Comment expliquer une telle mobilisation de finances ?
Oh, il n'est pas si étonnant que ça en soi. C'est-à-dire que d'abord, on sait l'attachement de ces grands groupes de luxe au patrimoine. Ça fait partie de leur positionnement, si je puis dire, et de leur ADN. Donc, et à partir du moment où la machine s'enclenche, entre guillemets, à donner, on est dans une surenchère, on l'a bien vu. Et après tout, enfin, j'ai bien vu sur Twitter, tout le monde s'en plaint, beaucoup en tout cas s'en plaignent. Ils n'étaient pas obligés, d'abord. Certes, ils vont s'y retrouver en déduction fiscale, mais ils n'étaient pas obligés de donner. Et les montants nous permettront effectivement d'avancer, peut-être pas aussi vite que souhaiterait notre gouvernement, mais en tout cas, nous permettront d'avancer et de faire une belle cathédrale qui sert notre tourisme, n'oublions pas.
Pascal Tournier, vous avez été surprise par cette mobilisation de fonds?
Et en fait, je pense que les Français sont généreux. On le voit, on l'a vu même pendant la crise des Gilets jaunes, il y a eu quand même toute la mise en place de cagnottes privées, hein, individuelles, où on a vu beaucoup d'argent, enfin pas ces sommes-là précisément, bien évidemment, mais aussi c'est aussi une autre caractéristique de la générosité à la française, c'est qu'elle fonctionne aussi à l'émotion. Souvenez-vous, lors des grandes catastrophes naturelles, que ce soit le tsunami par exemple, mais bien d'autres, les Français donnent sous le coup de l'émotion. Donc là, clairement, ce qui s'est passé hier soir est un moment très émouvant, je pense, pour les Français. Et encore une fois, le patrimoine, les Français sont très attachés. Souvenez-vous aussi de l'opération lancée par Stéphane Bern autour du patrimoine, qui a généré beaucoup d'adhésions. Et pour terminer, le patrimoine, je pense que c'est ce qui crée aujourd'hui aussi du lien entre les Français.
Alors, on parlait de l'émotion, Pascal Tournier, à l'instant. Il y a évidemment celle des badauds, des Parisiens, et pas seulement, hein, des Franciliens, des touristes de toutes les origines, qui ont voulu venir voir toute la journée Notre-Dame de leurs propres yeux.
Hier soir, j'étais devant la télévision. C'était atroce, je ne croyais pas vraiment, c'est affreux. Moi, j'étais allé il y a 8 jours dans Notre-Dame, justement, encore une fois, que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment triste. Je ne croyais pas jusqu'à ce que j'ai vu toutes les informations qui passaient. Et là, ce matin, j'y suis allé quand même pour voir, pour faire des photos.
C'est un peu comme quand un proche a eu un accident où on va le voir à l'hôpital et puis on revient le lendemain voir comment il va. Voilà. Et donc j'avais envie de voir les images, enfin de la voir en plein jour.
C'est une minute, un peu de silence intérieur pour prendre la mesure de ce qui s'est passé.
On respecte beaucoup la religion catholique parce que c'est un monument historique de plus de 800 ans. 13e siècle. Alors moi j'ai déjà visité peut-être 20 fois, 30 fois ici. Mais c'est une grande tristesse pour moi.
Voilà ces témoignages tous azimuts. Hein. Je m'y suis rendu, Bruno Cotterêts, personnellement ce matin aux abords du boulevard Saint-Michel. Et il y avait effectivement énormément de monde qui prenait des photos en toute tranquillité, qui échangeait sur les trottoirs, dans la rue, une sorte de concorde.
Tout à fait. Je m'y suis rendu moi aussi, aux mêmes heures, au même endroit. Et effectivement, ce qui m'a surpris, c'était à la fois le nombre de personnes qui étaient là, mais aussi l'émotion palpable. On voyait encore ce matin des gens en larmes. J'en ai vu plusieurs. Et c'est vraiment intéressant parce que nous sommes des sociétés, les pays, grands pays européens ou même d'autres, où le poids de la religion a considérablement diminué comme institution, mais en même temps continue d'exister, ces grandes références. Et on voit qu'effectivement, ces grandes références, elles ont une capacité incroyable, s'il arrive quelque chose, à susciter une émotion collective très très forte. Donc effectivement, c'est aussi le sentiment de sidération par rapport à ce qui s'est passé. À la fois la sidération, c'est un grand monument de l'histoire de France. Peut-être aussi la sidération qu'on puisse avoir quelque chose d'aussi précieux qui part en fumée. C'est pas la première fois qu'il y a un bâtiment bâtiment historique en France qui part en fumée. On se rappelle de plusieurs autres bâtiments. Oui. Donc il y a quand même aussi un effet un peu de sidération de dire mais comment ça a pu arriver. Il y aura sans aucun doute un moment donné où viendra les questions et la réflexion sur la sécurisation des grands travaux sur de grands bâtiments historiques.
Marion Bourg, c'est cette France-là réconciliée le temps d'un drame que le président appelle de ses voeux ?
Oui, certainement. Et on l'a vu toute la nuit, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui toute la nuit ont été soit se recueillir, soit regarder, soit pleurer. Donc oui, c'est Emmanuel Macron a nécessairement presque besoin de cette France, alors que depuis 4 mois, et Pascal Tournier le disait très justement, depuis 4 mois, on était plus dans des affrontements de part et d'autre et des crispations. Donc là, il y a une sorte de pause. Combien de temps va-t-elle durer ? On ne sait pas. Mais même les Français ont aussi besoin de ces moments de recueillement.
Camille Saint-Paul, la pause, elle est de 24 heures pour la campagne politique des européennes. Elle est dans la sidération des Français que nous évoquons à l'instant. Est-ce que ce temps-là, suspendu, peut durer ?
Autant suspend ton vol. Pour la campagne européenne, malheureusement, j'ai l'impression que le temps est suspendu depuis un bon bout de temps, mais ça, c'est un autre débat. Je pense que rapidement, les polémiques vont arriver, et y compris sur ce sujet de la sécurité, je suis bien d'accord. Ça commence à venir, on parle effectivement du point chaud, et de éventuellement d'un accident qui serait dû aux travaux. Sans polémiquer, parce que c'est pas mon point, moi j'ai une interrogation, enfin quelque chose qui m'a frappé et je n'ai pas de réponse à ça. C'est est-ce qu'il y a eu des exercices faits pour anticiper un cas d'incendie à Notre-Dame?
C'est-à-dire manifestement pour le public.
Pour le public, ouais. Mais des pompiers, du coup...
Manifestement, oui, ouais. Il n'y a pas très longtemps.
D'accord. Parce qu'on avait le sentiment, effectivement, de quelque chose de... Non pas d'improvisé, parce que tout ça est toujours improvisé, mais voilà, qui semblait pas aussi efficient qu'on avait l'air. Après, je ne suis pas pompier, je le reconnais, j'ai plein de limites à tout ça, mais on est toujours sidéré par le fait qu'on a attendu avant de pouvoir faire quoi que ce soit, et on se demande est-ce qu'on était si bien préparé que ça. C'est juste la question que je pose, oui. Mais sans polémiquer, parce que je suis bien consciente que chacun est à sa place.
Je vous rappelle qu'une enquête est en cours et elle tourne à plein régime actuellement, 20h51 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Emmanuel Macron veut rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris dans les 5 ans qui viennent. Une cathédrale plus belle encore, espère-t-il, d'ici 2024. C'est un projet humain et passionnément français, selon le chef de l'État, qui décrit ses 6 concitoyens comme un peuple de bâtisseurs. Pas d'autre annonce dans ce discours de 6 minutes ce soir depuis l'Élysée. On apprend aussi que le coq qui se trouve au sommet de la flèche de la cathédrale qui s'est effondrée vient d'être retrouvé. Il abrite, selon l'église, des reliques de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis. Une bonne nouvelle de plus dans cette catastrophe, puisque les principaux trésors historiques ont pu être sauvés. La façade et la structure du monument tiennent bon. En revanche, il n'y a plus de charpente et les 2/3 de la toiture comme la flèche sont partis en fumée. L'édifice ce soir est en cours de consolidation. Ces travaux vont durer 48 heures. Les architectes, les pompiers pourront ensuite examiner de plus près l'ampleur des dégâts. Cette catastrophe à Notre-Dame, ce sera l'unique sujet du Conseil des ministres demain. Sur le grand débat, Emmanuel Macron, qui devait faire des annonces hier, s'exprimera dans les prochains jours. France Info a pu connaître la teneur des annonces prévues. Il s'agissait de la suppression de l'ENA, d'une baisse de l'impôt sur le revenu. À noter, entre autres aussi, un moratoire pour arrêter les fermetures d'écoles et d'hôpitaux d'ici la fin du quinquennat. Dans le reste de l'actualité, ce rebondissement ce soir après la cavale du braqueur Redouane Faïd l'été dernier. Le pilote de l'hélicoptère qui a servi à son évasion est en garde à vue. C'est aussi le cas de sa belle-fille et de son épouse. L'homme est soupçonné de ne pas avoir été pris en otage comme il l'a toujours soutenu.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'émotion, vous le savez, dépasse largement nos frontières, elle est mondiale. Donald Trump a présenté ses condoléances à la France. Et aujourd'hui, parmi les nombreuses réactions à l'étranger, voici celle d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui propose de venir en aide à la France pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame n'est pas seulement le symbole du christianisme en France. Notre-Dame, c'est aussi notre héritage européen commun que nous partageons. Et c'est pourquoi, comme j'en ai discuté avec la ministre de la Culture, nous sommes bien entendu prêts à participer à la reconstruction notamment en partageant notre expertise et notre expérience. Les ministres de la Culture échangeront leurs points de vue à ce sujet. Dans tous les cas, en Allemagne, nous avons énormément de compassion à propos de ce qui s'est passé hier à Paris.
Pascal Tournier, nous sommes sur un épisode au fond de solidarité par-delà les frontières et la question de la préservation des patrimoines mondiaux.
Oui, et je dirais, c'est aussi une question de mémoire européenne. Donc Angela Merkel qui s'est exprimée dans ce sens-là, mais il y a aussi Monsieur Juncker qui s'est exprimé dans ce sens-là aussi. Et je crois que aujourd'hui, alors que on se dit quelles vont être les thématiques de la campagne européenne, la question même de l'identité européenne, est-ce qu'elle existe ? Là, à travers ce qui s'est passé, à travers ce monument, nous avons un lieu de mémoire européenne. Et je crois que c'est intéressant de ce point de vue-là et que peut-être, ça peut peut-être faire le pont, je ne sais pas, avec la campagne qui va suivre.
Camille Saint-Paul, vous approuvez ce que dit
Oui, ça aurait
Pascal
dû faire le pont. C'est mon point.
Ça va peut-être.
C'est trop tard. Non, je pense que ça aurait dû faire le pont, effectivement, parce que c'était juste ce fil qui était tiré jusqu'au bout, à savoir ces valeurs culturelles. Après, quand j'écoute ça, j'ai juste une pensée aussi. Par contre, pour la Syrie, c'est-à-dire qu'il y a eu des monuments qui ont été détruits de partout, et des monuments magnifiques, et toute cette solidarité, elle aurait dû s'exprimer aussi à ce moment-là. Alors, c'est pas trop tard.
Elle s'est exprimée aussi, notamment à travers l'UNESCO et autres institutions internationales.
Beaucoup plus faiblement, oui. je trouve. Et bon, après, il y a eu une guerre et beaucoup de choses beaucoup plus complexes, je le reconnais. Mais simplement, on se dit quand même qu'il y a deux échelles et c'est bien dommage.
Ouais. Bruno Cotterêts, sur l'identité européenne selon Pascal Tournier.
C'est un vaste sujet, l'identité européenne. On n'a pas fini d'en parler au moment de chaque élection européenne. Je trouve intéressant que dans ce moment de la relation franco-allemande, où on a vu récemment, on a eu le sentiment que nos voisins amis allemands se déportaient un petit peu par rapport à Emmanuel Macron, on voit que là, il y a tout de suite cette relation qui est très importante. Je pense que si l'équivalent s'était passé en Allemagne, le président français aurait fait une déclaration très comparable à celle d'Angela Merkel du jour. Et on voit très régulièrement, lorsqu'il y a de grands moments, la relation franco-allemande qui, toujours à un moment donné, se réexprime aux yeux des Européens comme ceux qui incarnent vraiment cet état d'esprit européen.
Marion Mourgue, il nous reste peu de temps. Que va donc faire le président de la République ? Que peut-il faire désormais ? Il s'est exprimé ce soir, il est allé au-delà de la simple évocation de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il y a une nouvelle mobilisation samedi du mouvement des Gilets jaunes. Que peut-il se passer ?
Il a dit qu'il reprendrait la parole dans quelques jours. La question, c'est quand ? Vous l'avez rappelé, il y a les Gilets jaunes samedi et on entre aussi dans le week-end de Pâques avec le Vendredi Saint et puis lundi qui est un jour férié, qui est un jour de recueillement pour beaucoup en famille. Donc c'est compliqué de prendre la parole avant lundi, ça serait plutôt la semaine prochaine, même si on le sait, on est encore en vacances parlementaires et donc il y a aussi une sorte d'arrêt de la vie politique pendant quelques jours, en tout cas encore de pause.
Camille Saint-Paul, en termes de communication, il faut attendre, il faut laisser passer le week-end, laisser passer le week-end pascal et peut-être revenir mardi prochain sur ces annonces présidentielles.
Je crois que Marion a raison, il n'y a pas trop le choix.
Quel choix, en fait ?
Non, il y a un choix de
c'est un calendrier contraint, selon
c'est
vous.
C'est un calendrier contraint, c'est-à-dire encore une fois, soit il attendait 24 heures de plus, qui aurait été mon scénario, et il pouvait tout faire en même temps. Ça aurait été mieux s'il faisait un petit tweet au passage, mais voilà, c'est voilà. Soit là, il est obligé d'attendre la semaine prochaine, je ne vois pas ce qu'il peut faire. À part ça.
Pascal Tournier, vous êtes du même avis ?
Oui, je partage le même avis. La semaine qui s'annonce entre la manifestation de samedi et toutes les festivités autour du week-end de Pâques, c'est un peu compliqué de s'insérer au milieu de ce calendrier de tous ces jours-ci.
Allez, il est temps de conclure. Vous gardez la main, Pascal Tournier. Alors, qui est-il à la une de l'hebdomadaire La Vie ?
À votre avis. Donc nous avons fait un dossier de 42 pages sur l'événement d'hier, bien évidemment, et nous avons titré « Notre-Dame avec un accent circonflexe, s'il vous plaît, de Paris ».
Marion Mourgue, la une du Figaro demain.
Pareil, sur Notre-Dame avec un gros journal spécial d'une vingtaine de pages consacré à Notre-Dame.
Merci à vous Marion Mourgue, Pascal Tournier, Camille Saint-Paul et merci à Bruno Cotterêts d'avoir participé à cette édition spéciale « Les informés consacrés » à l'allocution du président Emmanuel Macron. Pour ma part, je vous dis à demain pour une nouvelle édition des Informés. Bonsoir.